Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus en nombre pour assister à la suite donc, de cette passionnante journée organisée par Benjamin et Delphine, que je remercie à mon tour et au nom de cette table ronde qui va se tenir à présent pour le programme très nourri et très diversifié qu'ils ont réussi à concocter, puisque sont entremêlées à la fois les analyses de praticiens et d'universitaires, de publicistes et de pénalistes, bref, tout ce qu'il faut pour aborder la question le plus pleinement possible. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'après avoir dynamisé la thématique ce matin autour du point de départ des mesures de police et plus généralement, je crois, du point de départ de toute réflexion sur les enjeux que soulève la police administrative d'un côté et la police judiciaire de l'autre sur le terrain à la fois des préoccupations liées à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection des droits et libertés fondamentaux. Nous voilà à présent, et je crois que ce sera un peu l'idée pour les tables de cet après-midi, dans un registre plus opérationnel, puisque vous avez eu, je crois, un certain nombre de clés d'entrée d'analyse critique, et il en faut, c'est tout l'intérêt de ces débats, sur les enjeux que soulève la distinction police administrative, police judiciaire. À présent, on va cibler, j'ai envie de dire, le regard sur un certain nombre de mesures qui sont précisément au cœur des discussions, des hésitations, des prises de position, des clivages entre la police administrative et la police judiciaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir et la chance de vous présenter les partenaires de cette table ronde que je vais présenter par ordre alphabétique, hein, puisque là encore, nous sommes sur un panel exclusivement masculin. Maître Audebert, tout d'abord, vous êtes avocat au barreau de Tours. Est-ce qu'on peut dire avocat pénaliste ou... Oui. Vous pratiquez beaucoup de droit pénal et vous allez émerveiller les étudiants qui sont avides de devenir avocat par votre approche de la pratique et votre sens de la répartie vis-à-vis d'arguments qui pourraient venir d'un univers parfois qu'on a tendance à opposer. Mais je fais mousser un peu hein, pour que tout le monde reste bien jusqu'à la pause déjeuner qui sera légèrement repoussée hein, de 12h30 à 12h45. Vous aurez une contradiction tout en douceur, tout en nuance, si j'ai bien compris, apportée par Monsieur Gagneux, qui est formateur d'officier de police judiciaire et vous-même, bien sûr, officier de police judiciaire de formation. Et vous exercez sur Tours, donc ici même. Et pour compléter l'approche, nous aurons l'éclairage de M. Pierre Boisseau. Alors, pardon, hein, du coup, j'ai dérogé à la règle de la présentation alphabétique, mais vous cumulez deux casquettes, d'après ce que j'ai du coup compris à l'instant, puisque vous êtes à la fois enseignant au sein de cette université, enseignant publiciste, et vous avez également des fonctions politiques ou administratives, si on peut les désigner ainsi, on peut le dire. Voilà, il n'y a pas de secret, vous êtes adjoint au maire de la commune de Blois. Voilà, alors sur ces éléments, moi qui suis enseignant et uniquement enseignant à l'Université de Paris-Nanterre, je vais en fait très très brièvement, pour les éventuelles personnes qui ici n'auraient pas toutes les cartes en main, et je n'aurais pas la prétention de vous les donner de façon très détaillée, autour de ce qu'on entend par mesure de contrôle, mesure de fouille, qu'est-ce que, de façon plus générale, on entend par vérification sur le terrain de la police judiciaire et de la police administrative. Je vais très brièvement vous donner un aperçu de ce qui est en jeu autour de la discussion en présence. Et puis ensuite, je laisserai d'abord chacun des intervenants s'exprimer assez librement sur le sens, tout simplement pour reprendre la problématique qui est posée en filigrane de ce colloque, le sens qu'évoque au regard de ces mesures et peut-être plus généralement la distinction police administrative, police judiciaire pour chacun d'entre vous. Et puis ensuite, là, je reprendrai ma casquette d'universitaire assez soucieux de rigueur et de respect du chrono pour vous interroger et permettre à l'auditoire de poser toutes les questions que vous aimeriez poser sur l'envers du décor, les dessous, les critiques, les interrogations que suscitent auprès de vous les mesures en question. Alors, pour être très bref, évidemment, comme nos organisateurs l'ont fait, il y a lieu de distinguer ce qu'on appelle mesure de contrôle et mesure de fouille, parce que dans les textes, des dispositions différentes sont prévues. bien que parfois elles se logent dans un article commun. Et l'intérêt, c'est de permettre à nos agents dépositaires de l'autorité publique d'accomplir des investigations plus ou moins sommaires au regard des nécessités que les faits vont révéler. Et il faut dire, avant de commencer, qu'on est très en amont, je crois. Chacun pourra évidemment apporter sa pierre à l'édifice, mais quand on parle de mesures de vérification, a priori, on est très en amont d'une investigation poussée autour d'éléments qui seraient tangibles. Généralement, on va parler de mesures de contrôle, parce que précisément, on veut s'assurer de la réalité d'une situation qui peut paraître un peu douteuse, sujette à soupçons. Et toute la question va être de savoir dans quel cadre on agit. Sur ce point, le code de procédure pénale offre la commodité, disons, pour aller à l'essentiel, autour d'un même texte, de réunir l'essentiel à savoir autour de ce qu'on appelle les contrôles. Et je vais viser ici uniquement les contrôles d'identité. Ce texte, c'est l'article 78-2 du code de procédure pénale. Malheureusement, il est devenu tellement long et indigeste que je vous en déconseille la lecture avant d'aller déjeuner. Il vaudra mieux vous en tenir à ce qu'on va pouvoir en dire entre nous dès à présent. Mais il a le mérite, ce texte, de compiler en quelque sorte l'essentiel des mesures de contrôle d'identité qui peuvent être exercées aussi bien à des fins répressives, il commence par cela, qu'à des fins préventives. Alors, très très rapidement, on distingue classiquement quatre contrôle d'identité, qui sont prévus par l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Les deux premiers sont d'ordre judiciaire, les deux autres d'ordre administratif. Donc les deux premiers ont une finalité affichée comme répressive, les deux autres affichées comme préventive. Les deux premiers dont je parle sont le contrôle qu'on qualifie de purement répressif, qu'on peut également qualifier de contrôle ciblé, qui repose typiquement sur l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis une infraction. Là, typiquement, on va le voir, on va en discuter, un agent, un officier, on va en reparler également, de la question du statut, des qualités, va pouvoir demander à un individu qui est suspecté, du coup, d'avoir commis une infraction, de décliner son identité. Puisqu'il y a suspicion, on est dans un registre qui évoque aussitôt, suspicion d'une infraction, une mission de police judiciaire. Bien. Ensuite, puisqu'il y a un certain nombre de circonstances possibles, je passe à l'autre forme de contrôle d'identité de type répressif, qui est également donc un contrôle de police judiciaire. Le Code de procédure pénale, à l'article 78-2, prévoit la faculté pour le procureur de la République, et non plus pour l'agent sur le terrain d'initiative qui va considérer qu'un soupçon mérite une vérification sur la base d'un contrôle d'identité, le procureur de la République peut d'une certaine façon impulser un mouvement. D'ailleurs, en pratique, on parle parfois, et vous aurez l'occasion peut-être de le confirmer, d'opération coup de poing pour désigner cette capacité qu'a le procureur de la République en tant que directeur, rappelons-le, de la police judiciaire, de l'enquête qui va être menée sous sa direction. Il a la capacité d'impulser à un moment donné une opération qui va du coup impliquer un certain nombre d'individus qui vont se trouver à un instant donné, dans un lieu donné, parce qu'on, c'est là la finalité répressive, parce qu'on envisage la nécessité d'aller, disons, s'assurer que telle ou telle infraction, par exemple des vols, ont été commis sur place. Il faut savoir qui est dans le collimateur. Ces deux contrôles d'identité sont entre les mains donc d'autorités qui vont agir à des fins de police judiciaire. Et puis il y en a deux autres. Un assez remarquable pour être signalé d'abord, l'autre un peu plus spécifique, mais de plus en plus remarqué. Le premier, c'est le contrôle qu'on pourrait qualifier de purement préventif, contrôle inopiné, que permet, je ne vous donne pas les alinéas parce que d'une loi à l'autre, il bouge et ça devient très compliqué d'être sûr de ses repères. De mémoire, c'est l'alinéa 8 en l'occurrence. Il prévoit ce contrôle, la possibilité pour les agents qui sont sur le terrain, par exemple en patrouille, à un moment donné, pour des raisons qui tiennent à la sauvegarde de l'ordre public, et des raisons qui, on pourra en reparler, sont quand même assez largement définies, la possibilité d'inviter, mais évidemment, il faut comprendre l'invitation comme étant dépourvue de contradictions, a priori, inviter une personne à décliner son identité parce qu'il y a nécessité de prévenir un trouble à l'ordre public. C'est très généralement posé dans le code. ça a été également ciblé comme étant trop généralement appliqué dans certaines zones, parce qu'il n'y a pas ici notamment le filtre préalable d'un procureur de la République ou d'un équivalent, le préfet, qui serait à l'origine de ce type de contrôle. Contrôle inopiné, donc c'est comme ça que moi je l'entendrais. Et puis enfin, un dernier cas de figure, très spécifique au départ, c'est ce qu'on appelle le cas de figure des contrôles type Schengen, contrôles qui ont été prévus précisément à la suite de l'adhésion par la France des accords Schengen et puis qui se sont affinés et élargis, il faut bien le dire, au fur et à mesure que la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi tout ce que peut faire graviter la crainte d'une immigration qui fait transiter avec elle des formes nouvelles de menaces en termes de terrorisme notamment, ce dernier type de contrôle permet aux abords des frontières, mais aussi dans les enceintes et désormais aux abords des enceintes qui permettent de circuler d'un pays à l'autre, typiquement les gares, les aéroports, cette forme de contrôle-là permet à des fins en réalité à la fois préventives et répressives à des agents qui sont dans ces lieux de procéder à des contrôles qui peuvent donc être de type police administrative, mais aussi, on peut quand même se poser la question, de type police judiciaire. C'est très facile, une fois qu'on a dit ça, et sans entrer dans le détail plus longtemps, de vous donner un aperçu de ce qu'on appelle fouille, puisqu'en fait, selon le même schéma, le Code de procédure pénale, mais cette fois-ci en ayant distingué les textes, ce sont les articles 78-2-1 à 78-2-4, le Code de procédure pénale distingue quatre types de fouilles qui vont elles-mêmes être scindées en deux catégories, deux sous-catégories, des fouilles de police judiciaire et des fouilles de police administrative. Quelle est la différence entre une fouille et un contrôle ? Le contrôle, on se contente de demander à la personne de décliner son identité par tout moyen. Elle est obligée, quel que soit le cadre, de souscrire à l'invitation, si j'ose dire, puisque l'article 78-1 du Code le pose comme tel. La fouille, c'est pas, contrairement peut-être aux apparences, ici une fouille des personnes qui a d'abord été codifiée, c'est une fouille des véhicules qui peuvent se trouver dans l'espace public, hein, c'est d'abord cela qu'on vise, et qui va pouvoir être organisée à des fins aussi bien préventives que répressives, selon qu'on se situe dans un cas de figure où tel individu à bord de tel véhicule est soupçonné d'avoir commis une infraction. Ou bien, donc ce serait une fouille de type répressif, ciblé sur un individu, l'équivalent du premier contrôle d'identité que j'ai évoqué. Ou bien, le procureur de la République a requis à un moment donné que les agents qui sont sur telle zone, pendant tel laps de temps, vont fouiller les véhicules qui sont ici présents, à des fins répressives également. Et puis, en matière de police administrative, on a le pendant des contrôles d'identité, à savoir des fouilles qui peuvent avoir lieu à des fins de prévention d'atteinte à l'ordre public et dans le cadre des zones qui sont incluses dans l'espace Schengen. J'ai parlé des véhicules d'abord, mais les fouilles peuvent s'étendre également à l'inspection visuelle et du contenu des effets personnels des personnes qui sont dans ces lieux. C'est ce que prévoient ces textes, et de manière de plus en plus encadrée, et qui amène donc à envisager assez largement la notion de fouille pour les interventions qui vont désormais avoir lieu. Je n'entre pas davantage dans le détail. On pourra, mais on en a beaucoup parlé ce matin, faire des liens évidemment avec certaines dispositions de la loi SILT, la loi du 30 octobre 2017 qui renforce la volonté de prévenir les atteintes les plus graves à l'ordre public, celles en matière d'antiterrorisme, parce que notamment dans le cadre des périmètres de protection, les anciennes zones de protection et de sécurité de l'état d'urgence, il y a des prérogatives qui sont assez proches, pour ne pas dire de même ordre, qui sont prévues par les textes. Mais je crois qu'à présent, l'essentiel, c'est de savoir ce qu'en pensent les acteurs de terrain, et puis les chercheurs, mais également, puisque vous avez cette double casquette, acteurs du terrain administratif, autour de la question qui était posée. Messieurs, j'aimerais, et peut-être là aussi on peut démarrer par l'ordre alphabétique, Maître Audebert, j'aimerais savoir assez librement et dans un temps concis, ce qu'évoque pour vous, de façon d'abord très générale, la distinction police administrative, police judiciaire, vis-à-vis de la profession que vous exercez, et peut-être, ensuite on ira dans le détail, vis-à-vis des mesures que je viens très rapidement de brosser.
Madame le Doyen, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis avec David Gagneux, que je connais d'ailleurs très bien, parce que nous sommes rencontrés à l'occasion de nos fonctions réciproques. Je suis un des individus qui aujourd'hui met les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une vue globale de la situation, tout à fait générale peut-être, et en tout cas approfondie. Moi, j'ai l'habitude de rencontrer des citoyens lambda qui ont commis une ivresse publique et manifeste, qui se retrouvent aux abords d'une gare et qui ne comprennent pas toujours bien ce qui leur arrive et qui voudraient le savoir. Alors, l'intérêt de mon intervention, je crois, ça va être surtout d'essayer de vous donner peut-être cette optique du mécanicien et non pas de celui qui va ordonner un contrôle ou juger ultérieurement, mais peut-être celui qui est le plus proche de 98% de la population qui n'est pas juriste, mais qui, bien évidemment, est soumis aux effets du droit. Alors, et dans un temps que je vais essayer d'être... De garder assez court, je pense que vous me couperez si nécessaire. Je voulais simplement commencer par rappeler deux principes qui me paraissent importants et qu'il ne faut jamais oublier. Le premier, c'est le principe de la séparation des pouvoirs auquel je tiens beaucoup, qui est un principe que Montesquieu a développé il y a déjà un certain temps, et qui était un principe où on rappelait que tous les pouvoirs devaient se contrôler, se surveiller l'un l'autre. Je n'ai plus la phrase précise, mais c'était un principe qui, me semble-t-il, est extrêmement important, et un principe qui, me semble-t-il, aujourd'hui, est quelque peu battu en brèche. Monsieur Lacaille, nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure. Je me permettrai d'égratigner peut-être un petit peu votre ordre de juridiction. Mais je crois, encore une fois, que ce principe est plus qu'important, parce que c'est le fondement de la plupart des démocraties, et que si on oublie que nous sommes dans un pays où nous n'avons depuis 1958 qu'une autorité judiciaire et pas un pouvoir judiciaire, eh bien on oublie beaucoup de choses, et puis on ne comprend pas forcément une bascule, un glissement qui, me semble-t-il, est extrêmement néfaste au droit. Et je rejoindrai M. Slama sur ce point. Il y a une crainte aujourd'hui que l'on peut avoir, me semble-t-il, sur les libertés individuelles. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est un principe qui est rappelé notamment par la Cour européenne de Strasbourg, qui indique dans la plupart de ses jurisprudences que si le droit doit être juste, il doit aussi en avoir l'apparence. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que ici, vous avez beaucoup de gens, vous êtes tous des juristes, vous êtes des juristes compétents, vous allez être, il y en a déjà beaucoup ici qui décident, qui ordonnent des contrôles, qui vont juger de la légalité, qui vont indemniser ultérieurement éventuellement, et vous savez quel est le droit. Mais si je prends un point central dans cette salle et que je trace un cercle de 150 mètres de rayon autour de ce point central, nous aurons quand même dans ce cercle 95% des juristes de la ville de Tours qui seront ici. Ce qui veut dire que 95%. Ça veut dire que l'immense majorité des gens qui se retrouvent en ville ignorent ce qu'est le droit, ignorent ce qu'on peut faire, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce qu'on peut leur faire faire, les contrôles qu'ils peuvent supporter et autres. Gardez ça à l'esprit parce que ça peut induire dans l'état d'esprit d'une population une frustration immense. Quand une population estime qu'elle n'est plus entendue par les autorités, notamment judiciaire administrative d'un pays, c'est une population qui se rebelle et qui va effectivement réagir éventuellement violemment. Et si je vous dis ça, ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que le droit devient de plus en plus compliqué. Et j'ai pris un vieux code de 2014, vieux, c'est quand même pas si vieux que ça, et un code de procédure pénale que j'ai racheté il y a deux jours, simplement pour comparer la taille des pages, des feuillets et les prix éventuellement, concernant effectivement l'article 78-2 du code de procédure pénale qui est notre sujet de cette table aujourd'hui. Et j'ai fait le calcul, vous pourrez vérifier si vous le voulez, d'un côté j'ai 4 feuillets, de l'autre côté j'ai 21 feuillets. Ça veut dire tout simplement que nous sommes avec une inflation législative que nous pouvons essayer de maîtriser, nous les juristes, mais ça veut dire que l'immense majorité des citoyens ne savent pas ce qui se passe et ce qu'on va éventuellement leur faire subir. Et cela crée, à mon avis, un problème monumental dans ce pays. Deux remarques, vous avais-je dit, et puis deux principes initialement. Les deux remarques, c'est effectivement que il y a le droit et il y a la pratique. En matière de guerre, Clausewitz, ou je ne sais plus Sun Tzu, peu importe, a dit un jour que le meilleur des plans de bataille ne résistait pas à la réalité du terrain. Ça veut dire simplement, et de la même manière, que quand on a des textes qui sont édictés, quand on a des circulaires, quand on a des décrets et quand on a des gens qui essaient d'appliquer ces textes, on se retrouve en réalité avec un certain nombre de modifications qui interviennent, des modifications pratiques et un certain nombre d'interprétations qui changent tout. Nous sommes dans une période de terrorisme, incontestablement, et nous sommes dans une période où les textes se sont bien évidemment multipliés. Cela veut dire que, d'une part, on fait des essais, il ne faut pas l'oublier, les textes que nous avons et la loi de 2017, pardonnez-moi de le dire, est un essai en ce sens qu'il va falloir peut-être la modifier, l'amender, ou voir ce qu'elle va donner, et puis rajouter des textes dans les mois et les années à venir, ne l'oubliez pas. Et puis, à ce titre, je voudrais d'ailleurs juste donner un petit exemple. Je pense que David Gagneux, qui est à mes côtés et qui est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, même si l'officier de police judiciaire et moi avocat, nous avons vraiment la même opinion sur l'utilisation des textes et ce qu'on en fait. Et je pense que David Gagneux ne me contredira pas, même s'il viole un secret, quand je dirais que jusqu'à quelques années, je ne parle pas des modifications actuelles qui donnent beaucoup plus de pouvoir aux officiers de police judiciaire, on se retrouvait avec un contrôle d'identité sur 100 qui était légal. 1 sur 100. Je vous prie de noter qu'il opine de la tête. C'est vraiment quelque chose que je vous prie de garder en tête parce que c'est là la confrontation entre la réalité et la pratique. Parce que vous allez avoir effectivement des contrôles d'identité sur un SDF dans la rue qui vont être faits, on va lui demander ses papiers, on va faire des tas de choses. Et puis même si on n'a pas le droit de le faire, ne vous inquiétez pas, cette personne n'ira pas porter plainte ou n'ira pas critiquer. Donc gardez ça en tête, la réalité pratique, ce n'est pas le texte qui existe à ce jour. Et puis deuxièmement, et si je remets mes lunettes, ce sera quand même mieux pour remettre mes notes en tête, il y a, et c'est là où je vais me permettre d'égratigner quelques personnes ici présentes, une pensée terrifiante qui me vient tranquillement depuis quelques années, c'est que l'on a une bascule du contrôle des libertés du juge judiciaire jusqu'aux autorités administratives. Vous avez, et je me permets de vous le conseiller, un excellent article de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, il connaît un peu le sujet, en date du 2 février 2016, que vous trouverez sur le site de la Cour de cassation, « L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles ». Et M. Louvel, dedans, je me permettrai simplement de citer quelques exemples, rappelle effectivement ce glissement. Je rappelle quand même qu'au titre de l'article 66 de la Constitution, sauf erreur de ma part, c'est l'autorité judiciaire, et non pas le pouvoir judiciaire, qui est garant des libertés. Et nous avons le Conseil d'État, ça c'est dans la note, le Conseil d'État confirme dans son rapport public de 1991, je cite, que les dispositions de l'article 66 de la Constitution, selon lesquelles l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, n'obligent pas à placer sous le contrôle de cette autorité les interceptions de sécurité qui constituent des mesures de police administrative ne portant pas atteinte à la liberté individuelle au sens de cet article. Vous me direz sans doute que ça vous paraît légitime, mais quand vous lisez ça la première fois, je pense que ça peut vous choquer. On vient vous dire en substance, j'exagère peut-être mon propos et d'autres personnes pourront réagir, mais les interceptions de sécurité, c'est-à-dire les écoutes, ne constituent que des mesures de police administrative qui ne portent pas atteinte à la liberté individuelle. Moi, je trouve ça terrifiant. Et puis, un peu plus loin, M. Louvel reprenait et commentait en indiquant effectivement qu'on avait maintenant, le Conseil constitutionnel avait stabilisé de manière beaucoup plus étroite sa jurisprudence. Et il indiquait que dans les lois renseignement et état d'urgence de 2015, juillet et décembre 2015, de mémoire, je cite, « Le Conseil constitutionnel a confirmé ses orientations, précisant même dans cette dernière décision que la privation de liberté, ne constitue une atteinte à la liberté individuelle qu'à partir de la 13e heure. Ce qui a pour effet de ne pas soumettre au contrôle de l'autorité judiciaire l'astreinte à domicile ne dépassant pas 12 heures dans le cadre d'une assignation à résidence. » Et on a toute une analyse qui est reprise dans cet article qui démontre effectivement qu'on a une bascule et un transfert de compétences des juridictions judiciaire vers les juridictions administratives. Alors, je vous parlais tout à l'heure du principe de Montesquieu de l'équilibre des pouvoirs. pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, en n'oubliant pas qu'il y a quand même, et je le maintiens, et je le maintiendrai encore en m'expliquant dans une seconde, parce que tout doit être justifié et motivé, une plus grande proximité, à mon sens, des juridictions administratives avec l'exécutif que le judiciaire avec l'exécutif. Et je pense que cela peut être inquiétant. Cela est confirmé, effectivement, par ces analyses où on nous dit que la liberté, les libertés individuelles, finalement, on peut être privé de liberté pendant 12 heures, ce n'est pas vraiment une atteinte à la liberté individuelle. On a toutes ces jurisprudences qui existent. Ça m'inquiète énormément. Je rappelle aussi que dans le corps administratif, on a la possibilité de perspectives de carrière en dehors du corps et le retour dans les administrations centrales et les administrations déconcentrées et d'autres institutions. Pour moi, et j'indiquais à M. Lacaille tout à l'heure, ça me fait penser un petit peu à la possibilité, puisque nous sommes une année de football, où je pense que beaucoup ont suivi les matchs cet été, ça me fait penser à l'hypothèse où on aurait un arbitre de football qui serait toute l'année avec une équipe, ou qui pourrait aller dans une équipe de football une année, et puis un jour il reviendrait pour être arbitre et pour arbitrer un contentieux, alors qu'il connaîtrait beaucoup mieux un domaine et qu'il serait plus favorable à un certain domaine, avec des amis surtout dans un domaine, plutôt qu'une conception plus défenseuse des libertés. Je vais un peu plus vite, si vous voulez, non ?
Ah, cher maître, j'ai la chance d'avoir un policier à mes côtés, donc je vais devoir lui passer
la parole avec autorité dans un instant.
Hein.
Je le termine en une seconde, si vous le voulez bien, simplement pour dire que cette bascule du judiciaire vers l'administratif m'inquiète beaucoup pour les raisons que j'ai données. Mais évidemment, c'est une question que je vous pose, que vous pouvez vous poser. Le deuxième point, c'est qu'il y a une bascule non seulement du juge qui va contrôler, mais également des autorités qui vont pouvoir ordonner des mesures. Je rappelle que pour les lois d'urgence qui ont cessé avec la loi d'octobre 2017, le préfet avait un certain nombre de pouvoirs de police et qu'il y avait eu à ce titre 5 000, environ un peu plus de 5 000 perquisitions de nuit qui avaient été autorisées. Donc on peut se poser quelques questions, même si les choses ont changé, sauf à Paris, où le préfet de police a un certain pouvoir là-dessus. Mais encore une fois, les textes bougent, et à cette période de terroristes, les textes bougent terriblement. Et puis, dernier point, je m'interroge et je pense qu'il y a une inquiétude à avoir, parce que le droit, c'est pas simplement le contrôle, mais c'est aussi, de temps en temps, la sanction, et notamment l'indemnisation des parties. Et je pense qu'avec cette bascule du droit judiciaire vers le droit public, on aura des indemnisations qui seront prononcées moins souvent et sans doute de façon beaucoup plus inférieure à celles que prononçaient éventuellement les juridictions judiciaires. J'avais juste une décision du tribunal de Châlons de 2016 qui, pour une perquisition de nuit, alors que l'on n'avait pratiquement rien d'ailleurs, ça avait été donc cassé la décision du préfet, mais l'indemnisation pour une perquisition de nuit où on défonce une porte, on arrive brutalement dans un appartement, où on réveille les enfants, où on choque tout le monde de manière durable, on aura une indemnisation de 700 euros. Voilà. C'était le dernier point sur lequel je voulais m'étendre. Je pourrais vous communiquer cette jurisprudence si vous le voulez. Et j'en termine.
Maître, mon réveil sonne tous les matins et pourtant, je ne touche pas 700 euros. Alors, pour vous rassurer, les OPJ de France aussi sont très attachés aux libertés publiques. Dans la formation OPJ, sachez que les libertés publiques ont une grande importance puisqu'on s'attache à inculquer à nos futurs officiers de police judiciaire que la règle est la liberté, que l'exception est la garde à vue, puisque c'est compliqué pour un OPJ qui est tout le temps sur le terrain de comprendre que la mesure de garde à vue doit être exceptionnelle. Donc le principe reste la liberté, on est tous d'accord là-dessus. Pour revenir sur le sujet entre la dualité entre police administrative et police judiciaire, l'officier de police judiciaire connaît cette dualité de rien que par sa fonction, puisque à l'article 12, nous sommes dirigés par le procureur de la République. Mais de notre côté, nous avons notre hiérarchie administrative, et nous avons nos propres règlements, code de sécurité intérieure, règlement général d'emploi de la police nationale. Donc l'officier de police judiciaire connaît cette dualité tout au long de sa carrière, puisque les décisions du procureur de la République ne sont pas souvent les mêmes décisions que son chef de service. De toute façon, l'officier de police judiciaire obéit toujours à la fin au procureur de la République. Donc l'histoire est réglée au niveau de cette dualité, mais elle existe par des pressions hiérarchiques au niveau des décisions. Et dans ces cas-là, on demande à notre hiérarchie d'appeler elle-même le procureur pour obtenir une meilleure décision que l'on aurait pu avoir dans un premier temps. Voilà. Alors, cette dualité, elle est grandement présente. Moi, j'ai pu remarquer déjà au niveau pénal que beaucoup d'infractions étaient des infractions préventives. Hein. Je peux en citer certaines, l'embuscade, la mendicité agressive, la participation à un attroupement violent, où on va réprimer vraiment pour prévenir à une future infraction qui n'a même pas encore eu lieu. Donc ça, c'est des choses qui arrivent de plus en plus dans le code pénal. Donc on voit un petit peu l'arrivée de la police administrative dans le code pénal par des infractions de prévention. Donc ça, pour les officiers de police judiciaire, c'est très compliqué parce que les éléments constitutifs de ces infractions sont très durs à établir dans une procédure et on est un petit peu, des fois, entre deux chaises, donc c'est pas facile. Je vais revenir aussi sur le sujet plus palpation, fouille. Je dis souvent, le flair du policier n'est pas un motif de contrôle d'identité. C'est pas marqué dans le code. C'est bien dommage parce que ça pourrait nous aider des fois. Alors en effet, on a beau avoir du flair, il faut trouver un motif de contrôle. Et le motif de contrôle, il doit être dans le 78-2. Et les situations ne se prêtent pas toujours à un motif de contrôle. Je vais revenir sur quelques alinéas, notamment la réquisition faite par le procureur de la République. Je fais souvent allusion à cet alinéa quand j'explique le contrôle d'identité à mes stagiaires, puisque c'est un contrôle qui était au tout départ exceptionnel lorsqu'on avait une réquisition du procureur de la République. Je me souviens de mes premiers contrôles d'identité organisés sur une réquisition du procureur de la République. Le lieutenant de voie publique descendait avec ses beaux gants blancs et son beau sifflet blanc sur la voie publique. Tous les effectifs du commissariat étaient mobilisés et nous faisions un contrôle systématique de toutes les personnes sur le secteur déterminé, conformément à la réquisition de monsieur le procureur. Aujourd'hui, ces réquisitions, je pense que les commissariats en ont une par jour minimum. Donc d'une réquisition exceptionnelle, on est devenu une réquisition qui est quasiment journalière, quotidienne, qui autorise donc les policiers, sur réquisition du procureur, à contrôler toute personne dans un secteur déterminé pour viser certaines infractions. Donc voilà, pour juste vous montrer que le contrôle d'identité judiciaire, que celui-là est judiciaire, c'est banalisé et facilite notre travail, oui, pour trouver un motif de contrôle. Maintenant, ne facilite pas forcément la relation police-population. Voilà. Il y a un double tendance. Je reviens sur ce que disait Maître Doubert. Il est important de savoir pourquoi on se fait contrôler, dans quel cadre on se fait contrôler et si ce contrôle est légal. Et je pense que cette réquisition, elle n'est pas forcément affichée. Alors nous devons la présenter au moment du contrôle, mais une réquisition du procureur de la République est un long document qu'il est difficile de cerner en quelques secondes au moment d'un contrôle d'identité pour la personne contrôlée. Donc ça me pose un petit problème au niveau de l'éthique, mais bon, ça c'est personnel. Alors... Je veux revenir sur les fouilles aussi. Il y a une dualité au niveau des fouilles. Pour nous, la fouille judiciaire, il n'y en a qu'une. Elle est uniquement réservée aux personnes placées en garde à vue. Article 63.7 du Code de procédure pénale, elle doit être justifiée. Moyen de détection électronique inopérant et palpation inopérante. Alors, dans cette fouille prévue, qui était cette fouille judiciaire, on parle de palpation. Et pourtant, la palpation est uniquement administrative. Aucun article du Code de procédure pénale ne fait référence à la palpation. La palpation de sécurité, telle qu'on l'entend, donc palper à travers les vêtements, hein, on est dans aucune intrusion, elle n'est pas prévue par le Code de procédure pénale ni par le Code pénal. Rien n'indique la palpation. Donc quand je résume les trois fouilles de la police, et c'est un mot très large, la plus légère, ce serait donc la palpation, qui est strictement administrative. La deuxième serait la fouille de sécurité. Donc elle porte le nom de fouille, mais c'est une fouille strictement administrative. Toutes les personnes retenues dans un commissariat de police, que ce soit pour une rétention judiciaire, une garde à vue, font l'objet d'une fouille de sécurité. Une fouille de sécurité, c'est quoi ? Videz vos poches dans un carton, vous faites l'objet d'une palpation et d'un détecteur électronique pour savoir si vous n'avez pas d'objet dangereux sur vous-même ou pour autrui. Une fois que cette chose est faite, vous regagnez votre cellule. Et après, il existe la troisième, qui est la fouille intégrale. La fouille intégrale, j'allais dire la fouille à corps, mais elle a disparu depuis des années. La fouille intégrale qui doit être justifiée et pour les moyens de la procédure. Donc après, bien sûr, il y a toutes les fouilles sur les contrôles de bagages et tout, mais là, je parle vraiment stricto de terrain. Voilà, moi, ce que j'apprends à mes stagiaires. Donc on fait bien la distinction entre tout ce qui est vraiment judiciaire et qu'on doit justifier et les mesures un peu plus légères qui sont liées à l'opérationnel de notre métier, aux règles de sécurité, d'ordre public aussi. Voilà, pour le moment.
Très bien. Merci pour ces éléments. Effectivement, il y a, mais ça, on y reviendra. Il y a aussi des difficultés sémantiques qui peuvent parfois poser des difficultés pour comprendre de l'extérieur ce qu'on entend par fouille. Et sur ce point, je crois que c'est intéressant de pouvoir apporter des précisions sur ce qui, dans votre pratique, va concrètement être désigné comme tel. Pour compléter donc cette première phase d'échange assez libre sur le sujet, Monsieur Boisseau, je vous laisse la parole.
Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, toujours dans le cadre de choses plus opérationnelles, moi, il m'intéressait d'aborder une question, parce que derrière l'évolution des textes, derrière l'évolution de la jurisprudence, derrière... l'évolution des critères, etc., il y a en fait des situations concrètes. Et les deux derniers intervenants l'ont très bien souligné à l'instant, des évolutions concrètes que gèrent quotidiennement les membres de l'autorité judiciaire compétente, que gèrent quotidiennement les membres des forces de l'ordre, qui intéressent les membres du barreau et qui intéressent aussi, sous un autre angle, parfois des élus locaux. Donc là, effectivement, je prends aussi un peu cette casquette-là. Et sur ces situations concrètes, il m'intéressait notamment de me référer, en dehors même du cadre de l'état d'urgence qui a beaucoup occupé le propos depuis tout à l'heure, plus largement à la question de la sécurité et d'un corps un peu spécifique et qui est la police municipale. La question de la police municipale et notamment de son armement, c'est une question assez ancienne. Je me souviens avoir réfléchi un peu là-dessus alors que j'étais dans une année qu'on appelait encore maîtrise, donc ça remonte à quelques années maintenant. Cette question de l'armement des polices municipales, c'est une question qui me semble importante, notamment parce qu'elle facilite le basculement avec un certain nombre de difficultés entre la police administrative et la police judiciaire. Entendons-nous bien, la police municipale joue un rôle en matière de police judiciaire. Elle n'est pas simplement cantonnée à des fonctions de police administrative. Et son rôle en matière de police judiciaire nous renvoie notamment au code de la sécurité intérieure, au code de procédure pénale, par exemple. Simplement, il y a la théorie, il y a les textes, et puis il y a la pratique. Et en France, beaucoup d'agents des polices municipales se conçoivent avant tout comme des agents qui possèdent des missions qui relèvent très largement de ce qu'on appellerait, nous, en tant que juristes, la police administrative, qui, concrètement, quasiment psychologiquement, c'est un peu dans leur ADN, se conçoivent assez largement aussi comme relevant de ce qu'on appelait, encore il y a quelques années, la police de proximité, etc., etc. La question du développement de l'armement pose, à mon sens, un certain nombre de difficultés, et je vais souligner rapidement lesquelles après. Alors, juste sur l'armement de la police municipale, il faut savoir que les choses ont évolué, que depuis un décret du 29 novembre 2016, ils peuvent même être équipés de pistolets de 9 mm. Alors là, je ne suis pas compétent sur ce type d'arme, mais donc ça veut dire qu'au-delà des flashballs, au-delà d'éventuels tasers, etc., l'armement peut être relevé d'une dangerosité réelle, sachant que même en ce qui concerne, par exemple, les flashballs, ce ne sont pas des armes anodines, hein, puisque la police des polices, il y a quelques années, a souligné son inquiétude vis-à-vis de l'utilisation de ce type d'armes, que le défenseur des droits a gradué petit à petit ses réticences vis-à-vis de l'utilisation de ce type d'armes, jusqu'à finalement s'adresser à notre Parlement au début de l'année 2018 en plaidant cette fois pour leur interdiction pure et simple, et pas simplement une utilisation très restreinte. Donc il y a une vraie dangerosité dans ce type d'armement. Et la question qui, pour moi, est importante, c'est que lorsqu'on en est à commencer, je vais appeler ça comme ça, à utiliser cette arme, c'est-à-dire pas simplement la porter en termes de dissuasion, mais qu'on commence à être obligé, en tant qu'agent, de montrer qu'on pourrait utiliser son flashball, qu'on pourrait utiliser son arme, par exemple, qu'on la sorte, etc. En réalité, on se situe, à partir du moment où on est face à des agents sérieux qui respectent les procédures, on se situe dans l'infraction, dans le début d'infraction, d'une manière ou d'une autre, ou dans une agressivité, une violence qui commence à caractériser des infractions. Et pour moi, c'est une évidence. Il faut qu'on en soit au début de l'infraction, à la fraction qui se caractérise, parce qu'un usager ou quelqu'un qui utilise de sa liberté de circulation n'a pas à se retrouver dans le cadre de sa déambulation, dans le cadre de ses courses ou de son voyage en voiture avec un revolver sous le nez ou menacé par un flashball. Donc ça signifie que lorsque un policier municipal, une policière municipale est susceptible de commencer à utiliser ce type d'arme et à montrer qu'elle va l'utiliser potentiellement, on est déjà dans une situation qui se dégrade véritablement sur le terrain et on est en train de sortir de la prévention. Et donc, moi, je voulais me permettre une question, hein, puisque aussi le titre du colloque est sous forme interrogative. Est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, une exigence vraiment particulière? Je me tourne notamment vis-à-vis de l'OPJ du formateur, parce que est-ce que ce que nous abordons vraiment sous l'angle juridique, police administrative, police judiciaire, ne recouvre pas des modes de recrutement, des modes de formation, des procédures, des façons de travailler, d'aborder la question de la sécurité au sens large, différents. Voilà. Est-ce que, en termes de recrutement, en termes de formation, hein, j'ai ouï dire de policiers municipaux qu'on arme et qui ont, en tout et pour tout, dans l'année, une obligation d'entraînement de deux fois dans l'année avec cette arme, par exemple. Est-ce que, très concrètement, si sur le terrain, il y a une porosité entre police administrative et police judiciaire qui est notamment facilitée par le fait qu'on arme des policiers municipaux, est-ce que ça ne suscite pas de véritables interrogations sur le recrutement, la formation, l'utilisation, et en prenant bien sûr en compte ce que M. Lagaïd soulignait tout à l'heure, c'est que si les maires en sont à réfléchir à ces questions et à armer leur police municipale, c'est aussi parce que concrètement, il y a la théorie et la pratique, il y a des situations difficiles et pas simplement vis-à-vis de l'état d'urgence, il y a des pressions, il y a des enjeux politiques énormes, et je ne détaillerai pas, bien sûr, vous aurez compris, sur la question de la sécurité. Alors voilà, je voulais poser cette question, après j'aurai une autre question d'un autre ordre, mais ça me semblait, sous un angle très concret, une question relativement pertinente.
Oui, alors
je vous remercie de votre attention.
C'est moi qui vous remercie, et c'est d'autant plus pertinent que vous me permettez justement d'enchaîner sur l'opérationnel qui va à présent vraiment nous retenir. Je crois qu'il y a évidemment dans la salle des personnes qui sont très informées, sensibles à ce qu'est un contrôle d'identité, une mesure de fouille, que l'on peut-être, allez savoir, déjà subi. Je vous rassure, je ne vais pas demander à quiconque de se désigner, mais tout le monde n'est peut-être pas au clair sur cette donnée, et je crois qu'il serait intéressant peut-être déjà d'avoir un éclairage. Donc là, je me tourne d'abord vers l'acteur de terrain policier sur deux, trois repères relatifs aux personnes. Vous avez parlé des inquiétudes, des préoccupations que peuvent soulever dans la pratique la possibilité pour des agents qui peuvent être formés issus de formations très différentes. Il y a quand même une vraie différence entre un fonctionnaire de la police nationale qui a passé un concours, qui a déjà un bagage juridique selon le grade et la capacité qui va être la sienne, et un agent de police municipale, voire un adjoint de sécurité qui va être associé très ponctuellement à une mesure de ce type-là. Très concrètement, quand le code de procédure pénale nous dit qu'un contrôle d'identité, c'est une opération a priori plurielle, c'est-à-dire qu'elle est menée non pas par un individu qui d'un coup, avec les fonctions qui sont les siennes, estime opportun ou à l'ordre de demander à un individu de décliner son identité, mais par plusieurs qui vont avoir des rôles hiérarchiques et une mission qui va varier. Comment est-ce que concrètement la loi, les exigences déontologiques permettent au quidam de savoir qu'on est face à un agent de la police municipale, de la police nationale, quelle est l'exigence qui lui est faite sur la manière de procéder à ce contrôle? Bref, qu'est-ce qui peut nous rassurer en quelque sorte sur le cadre qui va s'appliquer aux personnes elles-mêmes qui vont mener ces contrôles?
Je pense que déjà entre la police nationale et la police municipale, il y a des distinctions d'ordre vestimentaire. Hein. C'est marqué sur les vêtements, national, municipal. Donc là, il suffit de savoir lire pour faire la distinction entre les deux. Ça me paraît assez facile dans un premier temps. Après, que ce soit un contrôle d'identité pratiqué par la police nationale ou la police municipale, ce sont les mêmes règles. Ce sont les règles du code de procédure pénale. Dès qu'un contrôle d'identité est réalisé, le contrôle d'identité, on rend compte à qui? À l'officier de police judiciaire. La première question que va se poser un officier de police judiciaire lorsqu'un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint va lui rendre compte d'un contrôle d'identité, c'est les causes du contrôle. Qu'est-ce qui a motivé ce contrôle d'identité? Alors nous, on l'appelle comme ça. Tout simplement, la légalité du contrôle. Le contrôle est-il légal? Pourquoi vous avez contrôlé cet individu? Dans quel cadre? À quel moment? Dans quelles circonstances? C'est surtout ça qui nous importe, nous. Après, moi, le discours tenu pendant le contrôle, en général, pendant que le contrôle d'identité est réalisé, je suis dans mon bureau. Je n'ai qu'à la fin le compte-rendu du contrôle d'identité. Donc sur le comportement de mes collègues, j'espère qu'il est exemplaire et qu'il suit le code de déontologie. Et je pense que dans la plupart du temps, c'est le cas. Voilà. Nous, on a cette mission, l'officier de police judiciaire, c'est vraiment de vérifier la légalité du contrôle. Pourquoi c'est ma mission? Parce que lorsque derrière, ce contrôle d'identité va donner lieu à une procédure, quelle que soit sa nature, moi, je rends compte à une personne, c'est au procureur de la République, et la première question que va me poser le procureur de la République sur une affaire dont le point de départ initial est un contrôle d'identité, c'est dans quel cadre a été contrôlé l'individu. Et donc, moi, je dois lui sortir l'alinéa du contrôle d'identité qui a été pratiqué et lui justifier par la saisine de mes collègues, par les écritures de mes collègues, si le contrôle est justifié ou non au vu de la situation, tout simplement. Et ça, c'est un principe que tous les OPJ de France et les procureurs, je le sachant, s'attachent. Pourquoi? Tout simplement parce que si la base de légalité du contrôle n'est pas bonne, autant arrêter d'écrire tout de suite, parce que tout ce qu'on va faire derrière ne sert à rien, la procédure sera cassée.
Merci. Maître Audebert, est-ce que vous pourriez, tout en réagissant assez librement d'abord, mais ensuite, peut-être nous donner votre sentiment en tant que praticien, défendeur des intérêts de personnes qui peuvent avoir été suspectées dans le cadre d'une infraction qui a été révélée par un contrôle. Est-ce que vous pourriez nous dire, presque en guise de conseil à des futurs praticiens, ce qui doit alerter l'avocat lorsqu'il est saisi d'un dossier qui part d'un contrôle d'identité? Qu'est-ce qui va attiser sa curiosité, la qualité de l'agent, le fondement du contrôle d'identité? Qu'est-ce qui va nourrir un contentieux?
Alors, plusieurs questions, effectivement. Première chose, si vous voulez effectivement revoir un dossier, ce que je dis, c'est qu'on revoit tout dans un dossier, on le prend de A à Z, et puis on n'oublie pas que souvent, il y a des grosses nullités de procédure qui sont constatées dès le départ dans un dossier. Je voudrais simplement quand même revenir un peu sur ce qui a été dit, pour compléter, en rappelant que l'immense majorité des gens est totalement incapable de faire la différence entre un policier national, un policier municipal, ou même, dans un certain nombre de cas, les adjoints de sécurité, mais également avec des agents de sécurité qui peuvent se trouver à différents endroits. Donc on est sur des problèmes assez importants. J'avais revu avec intérêt d'ailleurs la note de M. Camus. Je voulais simplement rappeler cela parce qu'il y a quand même une jurisprudence qui est très très intéressante concernant la police des stades. C'est effectivement, si je retrouve bien, une décision du Conseil constitutionnel qui a clairement indiqué que ce n'était pas une mesure, ça me reviendra tout à l'heure, je vous le redonnerai, mais ce n'est pas une mesure de police administrative que le fait pour une fédération sportive, notamment, d'assurer la sécurité. Je ne retrouve pas ma... Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une décision. Pardon ? Oui, c'est quand même un peu...
Ils estiment dans cette décision qu'il n'y a pas de délégation de la police administrative lorsque on assure le contrôle de l'entrée dans les stades. Mais ce qui, honnêtement, si vous regardez la décision, c'est fortement critiquable.
Ouais. Mais c'est effectivement. C'est pour ça que. On a une QPC qui a été posée et ça met en évidence effectivement le fait que vérifier toujours, ce n'est même pas les solutions ne sont pas toujours évidentes en droit. Bon, pour en revenir plus sur le sujet, je voulais donner deux ou trois petits exemples aussi tout à fait concrets de situations qui peuvent intervenir. Ça remonte à très longtemps et maintenant, grâce à la qualité des formateurs de police, et quand je dis ça, c'est à la fois une plaisanterie, mais c'est aussi extrêmement sérieux, j'ai pu voir, il y a une vingtaine d'années, un contrôle d'identité qui était motivé de la façon suivante. Ça m'a tellement marqué que je l'ai gardé en tête depuis 20 ans. Voyons un maghrébin avec des sacs en plastique devant l'entrée d'un garage. De ce fait, décidons de le contrôler. Ce n'est pas une plaisanterie, je vous le dis. Alors, on a aussi un certain nombre de procédures où On va trouver que ce n'est pas très clair, parce que moi j'ai eu un certain nombre de contrôles où j'étais dans l'incapacité totale de savoir si c'était un contrôle administratif ou un contrôle de police judiciaire qui était réalisé. Je me rappelle notamment à La Riche, à une époque, un jeune homme qui était, je cite de mémoire encore ce que dit le dossier, il était avec un verre d'alcool à la main et ainsi que le disait le rapport de police, il ne créait pas de désordre, il n'insultait personne, il n'avait pas l'air d'être violent, mais on a décidé, parce qu'il a un verre d'alcool à la main, de le contrôler. Alors ma première remarque, ça a été de dire d'abord que c'était un peu, il y avait une vieille publicité que les moins de 15 ans au moins ne peuvent pas connaître, qui était le Canada Dry, c'est-à-dire le goût de l'alcool, l'odeur de l'alcool, mais pas d'alcool. Donc on ne pouvait pas savoir si c'était un verre d'alcool avant de le contrôler. Et puis j'ai été incapable à l'audience de dire si c'était un contrôle administratif ou pas. Mais c'est quand même terrible que ce soit l'avocat qui soit là en train de le dire. Et je me rappelle que je m'étais d'ailleurs quelque peu engueulé avec la présidente d'audience, avec qui je m'entends très bien par ailleurs, et toujours très bien. Mais c'était quand même assez intéressant parce que vous n'avez pas toujours des gens qui précisent le motif du contrôle dans leur procédure. Je rappelle aussi, parce que c'est une anecdote qui me vient simplement en tête et qui me paraît tout à fait dans le sujet, que selon une jurisprudence qui me semble plus que contestable de la Cour de cassation, alors elle a peut-être changé depuis quelques années, je n'ai pas vérifié, mais j'avais un client qui était adossé, il habitait dans une pièce qui était au rez-de-chaussée, il était adossé à sa fenêtre, et puis quand il a vu les policiers arriver, il a basculé pour rentrer dans son appartement. Et les policiers ont procédé à un contrôle d'identité et ils mettent dans le contrôle d'identité, parce qu'il y avait d'autres choses passant sur les détails, mais ils mettent dans le contrôle d'identité, contrôlons l'identité de monsieur machin que nous connaissons parfaitement pour commettre un certain nombre de délits. Et ça ne gênait personne parce que la Cour de cassation vient vous dire, en tout cas venez vous dire, qu'on pouvait parfaitement procéder à un contrôle d'identité d'une personne qu'on connaissait parfaitement. Vous apprécierez, mais je trouve ça quand même assez surprenant. Est-ce que la jurisprudence a changé ? Je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié depuis quelques années, mais sur le coup, ça m'avait un peu surpris. Tout ça pour vous dire en substance que, un, vérifier systématiquement, pour finir de répondre, les motifs dans un dossier des contrôles, parce que c'est important de défendre les individus et parce que, encore une fois, il existe des règles de loi. Ces règles des lois, on peut les critiquer, mais en tout cas, on les respecte. Deuxièmement, il existe des tas de fois où les règles sont utilisées de manière assez floue, fluctuante, sans aucune précision. Et c'est là vraiment un grand danger, à mon avis, pour la sécurité. Je disais tout à l'heure, et là je pose directement la question à David Gagneux, qui, pour qu'il soit obligé de me répondre ou pas, il y a, mettons, une dizaine d'années, est-ce qu'il y avait un contrôle sur 100 d'identité qui était légal ou non ?
Je vais d'abord laisser, pour respecter un temps de parole qui soit à peu près équivalent, M. Boisseau, réagir s'il y a un point qui vous a interpellé en particulier sur ces questions.
Alors, il n'y a pas de point en particulier, même si ça confirme. Moi, je pense qu'au regard de ce que j'indiquais tout à l'heure, il y a, à mon sens, une difficulté. Si cette porosité entre police administrative et police judiciaire sur le terrain aboutit à modifier en profondeur l'action d'un certain nombre d'agents dont l'essentiel des tâches ne relevait pas de ce mélange des genres, appelons ça comme ça. Et je pense, alors que vous parliez en plus des adjoints de sécurité, ça c'est encore une autre question, qu'il y a là concrètement un souci potentiel. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de vraies même réticences, y compris au sein, par exemple, des polices municipales vis-à-vis de l'armement, en estimant que, là, on parlait des contrôles, mais le contrôle peut dégénérer et que cette situation que nous, on va appréhender juridiquement entre le passage, entre l'administratif, le judiciaire, etc., sur le terrain, c'est une vraie difficulté. Et ça peut, du coup, aussi contribuer à faire que, mettons, la motivation d'un contrôle, une fois quelque chose a dégénéré, soit pas si simple que ça à l'arrivée en termes procédural.
Ce qui est intéressant pour vous redonner la parole maintenant, c'est que quand on regarde, et alors là, Légifrance offre un outil qui est formidable pour les étudiants et les universitaires en général, quand on regarde la première version historique de l'article 78-2, Je prends les exemples de contrôles les plus saillants. Contrôle de type répressif pur, le contrôle ciblé, et le contrôle préventif pur, le contrôle inopiné. Le premier était en 1983 rédigé de telle sorte qu'on parlait de la nécessité pour les officiers de police judiciaire ou les agents qui agissaient sous leur, sur leur ordre et sous leur responsabilité de s'interroger sur l'existence d'un indice faisant présumer que la personne a, par exemple, commis ou tenté de commettre une infraction. Aujourd'hui, le texte, dans sa version la plus récente, parle non pas d'indice, c'est quand même important de le préciser, mais voilà, d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Quant au contrôle purement préventif, la version originaire, et sauf erreur de ma part, restait la même, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, donc là, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence ou non d'une infraction, même en germe, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être également contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Alors quand, Maître Audebert, vous nous dites que vous avez vu quand même un changement dans la motivation, a posteriori sans doute, des contrôles d'identité, et qu'on voit que les textes, à la limite, sont moins exigeants aujourd'hui qu'hier, ou le sont de la même façon, c'est-à-dire très généralement pour les contrôles préventifs, qu'est-ce que l'expérience que vous avez, vous, en tant que formateur, notamment, vous conduit à dire, à porter comme jugement sur ce point ?
Mais déjà, sur le texte en lui-même, si on fait un peu de sémantique, sur les raisons plausibles de soupçonner, j'explique souvent à mes OPJ que mes raisons plausibles de soupçonner ne sont pas vos raisons plausibles de soupçonner, ne sont pas ces raisons plausibles de soupçonner. Chacun a ses raisons plausibles de soupçonner. Et sur un même dossier, plusieurs OPJ ne prendront pas la même décision. Si on prend la garde à vue, c'est des raisons plausibles de soupçonner aussi, dans le texte. C'est exactement le même texte pour la garde à vue, le contrôle d'identité. Il y a les motifs du 62.2 qui vont se rajouter à la garde à vue, mais la base de la garde à vue, c'est des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, prévu d'une peine d'emprisonnement, et le contrôle d'identité, des raisons plausibles de soupçonner par rapport à un comportement. Donc on est vraiment dans les mêmes termes. Et j'explique souvent que dans un même dossier, deux OPJ prendront des décisions différentes. Si je parle sur la mesure de garde à vue avec les raisons plausibles de soupçonner, sur un dossier, un OPJ va prendre une décision de mesure de garde à vue, ce qui estime qu'il a des raisons plausibles de soupçonner, et l'autre à côté va le regarder en lui disant « moi je trouve ça léger ». Donc ça, c'est une interprétation aussi personnelle de l'officier de police judiciaire. Les raisons plausibles de soupçonner, c'est vaste comme expression. Donc nous, on doit s'attacher à ce que ces raisons plausibles de soupçonner, elles nous paraissent vraiment évidentes. Voilà, qu'il n'y ait pas d'équivoque possible sur ça. Je reviens aussi sur un petit contrôle qu'on n'a pas évoqué, qui est un peu passé dans l'oubli, c'est le contrôle au CZA. On n'a pas du tout évoqué, qui est un contrôle quasiment oublié, puisqu'il n'est plus pratiqué quasiment par les policiers de France, puisque en général, si un collègue vous... Alors, vous, contrôle au CZA, que vous connaissez, non ? Donc, rapidement, c'est le contrôle sur des signes objectifs d'extranéité. C'est le contrôle qui permet de contrôler les étrangers. Alors, je vous l'ai dit rapidement, la circulation à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger, la participation à une manifestation avec port de banderole étrangère, la distribution de tracts à position d'affiches rédigées en langue étrangère, l'occupation sans titre de bâtiment revendu publiquement, sa situation irrégulière, tout ça, ce sont des motifs de contrôle au CZA. Ces motifs de contrôle, en tant qu'OPJ, on ne les conseille pas, parce que ça a beaucoup de difficultés au niveau des tribunaux. C'est énormément cassé. Donc le CZA, qui est toujours en activité, alors un coup, une année, il n'y est plus, un coup, il y est, ça dépend des années. En ce moment, il est en activité. Ce que je vous lis, c'est toujours d'actualité, mais ce n'est pas pratiqué, puisque trop souvent cassé. Donc c'est une pratique, vous voyez. Donc les OPJ, les APJ, les policiers de terrain prennent bien en compte les difficultés liées au contrôle. Alors, le contrôle purement préventif, l'alinéa 8, très peu utilisé. Très peu utilisé. En judiciaire, très peu utilisé. Il est quasiment passé à l'abandon. Je dirais que les CZA et l'alinéa 8 portent tellement de problèmes à la justification du contrôle, et on a tellement d'autres possibilités de procéder à un contrôle d'identité, qu'on va se servir des autres possibilités plutôt que du préventif. De ma carrière, j'ai pas un souvenir d'une affaire sur un contrôle préventif qui ait abouti derrière à quelque chose, quoi. Et pourtant, croyez-moi que j'en ai traité quelques-unes.
Alors, merci. Je voulais juste rebondir sur la question du soupçon. À l'instant, vous soulignez à quel point le recours à la notion de soupçon est relatif. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, maître, mais au regard de la valorisation depuis quelques années dans ce cadre-là, mais aussi en termes d'assignation à résidence, de mesures relevant de l'état d'urgence, etc., est-ce que le soupçon qui forcément est pris en compte dans la procédure, et notamment la procédure pénale, est-ce que cette valorisation à outrance de la notion de soupçon, dont certains se disent qu'il aurait presque valeur probatoire à un certain nombre de cas, ce qui pose problème, est-ce que ça ne pose pas un véritable problème? Et là, je m'adresse à mes confrères, je m'adresse à vous maîtres, et au procureur, etc. Est-ce que ça ne pose pas, par essence, un véritable problème? Est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire, dans un état de droit, de la valorisation de cette notion de soupçon qui est finalement relative à l'arrivée?
Sur ce point, on revient aussi à la raison plausible. La raison plausible, qu'est-ce que c'est que la raison? C'est ce qu'on pense, et plausible, ça veut dire que ce n'est pas complètement idiot. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que si je dis, je pense que cette personne, Madame le doyen, est en train de s'apprêter à commettre un crime ici, je pense que ce n'est pas une raison plausible, effectivement. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup, en tout cas. Maintenant, Monsieur Camus a clairement indiqué ce matin qu'il y avait un point important qui existe, c'est le raisonnement du juge. C'est le juge qui va effectivement réfléchir et vérifier si ce qui lui est dit est complètement idiot ou pas. Alors, si on avait justifié il y a quelques mois ou quelques semaines, en tout cas, un contrôle d'identité en disant « je pense que la personne que je vais contrôler est, comme il s'appelait déjà, Saïd Redouane », puisque c'était quelqu'un qui avait l'habitude de se déguiser, de mettre une fausse barbe, etc., et qui pouvait vraiment être facilement déguisé, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu passer facilement dans un certain nombre de cas. Maintenant, le juge est justement là pour apprécier d'une manière indépendante ce qui lui est présenté par des OPJ, en disant quelquefois non, je trouve que ça, c'est pas tolérable, et puis malheureusement quelquefois en ayant une certaine tolérance, pour ne pas dire plus, surtout quand on sait que c'est vraiment un truand qu'on va arrêter ou qu'on a arrêté. Voilà.
Très bien. Alors, comme je vois que l'heure tourne, est-ce qu'il y a à ce stade d'éventuelles interrogations ou des réactions que vous voudriez apporter?
Plutôt, si vous permettez.
Bien sûr.
Alors, trois choses. La première, de dire qu'il y a autant de contrôles qui sont illégaux en France, je ne sais pas. On est dans une université, la valeur scientifique de la démonstration implique à ce niveau-là au moins de disposer d'éléments de recherche. Donc là, je répondrai, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, ce que je sais, ça renvoie exactement à ce que vous a dit M. Gagneux. Vous avez tout ce que vous apprenez sur l'article 78 en pratique. Qu'est-ce qui est concrètement utilisé? Seulement trois. Il n'y en a que trois. Le plus fréquent, c'est bien évidemment le contrôle qui est réalisé sur la base d'éléments qui laissent entendre que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Donc c'est le contrôle judiciaire. C'est celui justement dont il va faire état dès le début du compte-rendu téléphonique. Ça renvoie à la conférence que j'ai donnée hier, le traitement en temps réel. C'est qu'il va falloir rendre compte au procureur. Première question du procureur, vous vous rappelez? Lieu, date, mode opératoire, auteur, victime, préjudice. Donc, lieu, date, mode opératoire. Si, pourquoi le lieu? Je valide ma compétence territoriale. Pourquoi la date? Je vérifie que les faits ne sont pas prescrits. Et le mode opératoire? Je vérifie la légalité de la mesure. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps. Ensuite, c'est le fait que, autre article, c'est l'article 78.2. Bien évidemment, le contrôle préventif. Mais alors, nos concitoyens, ils en voudraient encore plus. Parce que quand vous organisez un contrôle 78.2 à l'entrée d'une commune, à 14h un vendredi, ça veut dire que la journée du vendredi après-midi et le samedi, il n'y aura pas de cambriolage. Parce que bien évidemment, ceux qui étaient en repérage pour envisager les cambriolages du week-end, surtout lorsque la période estivale arrive, pour repérer les maisons qui sont fermées et qui vont pouvoir être cambriolées, vont appeler par téléphone ceux qui étaient en préparation d'action, en leur disant « attention, il y a les policiers ». C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on fait aussi des 78.2 partagés. C'est-à-dire que sur la même journée, on va faire 8 contrôles. 30 minutes à tel endroit, 30 minutes à tel endroit, 30 minutes à tel endroit, etc. L'important, ce n'est pas de trouver des personnes qui transportent par devers eux des faits dont qu'ils recèlent, C'est simplement l'objectif préventif pur, nous sommes là. Et après, les appels téléphoniques vont faire que tout d'un coup, vous n'allez avoir aucune délinquance.
Juste, M. Camus, parce que c'est important du coup de préciser par rapport à l'objet même du colloque, 78-2-2, on est sur les réquisitions du procureur.
Absolument.
Et donc, a priori, sur une opération qu'on pourrait présenter
comme une recherche d'infraction.
Et alors que vous nous dites que la finalité va être...
Parce que la recherche d'infraction, c'est la réalité du contrôle, puisque nous sommes sur une zone qui subit régulièrement des raids ou des cambriolages. Mais matériellement, parce que il y a maintenant ceci, nous savons que la finalité, c'est identifier des auteurs d'infraction, mais le résultat, c'est la prévention de l'infraction. Donc c'est tout simplement la différence entre l'objet et la cause. Mais ça, le droit l'admet totalement, puisque l'objet de mon contrôle, il est judiciaire. Sur la question... oui, le dernier article, c'est le 78-2-1, c'est-à-dire les contrôles dans les entreprises pour vérifier la légalité de l'embauche des salariés. Sur la question de la police municipale, là, il faut être très clair. N'imaginez pas une seconde que nos policiers municipaux sont des baroudeurs du soir qui n'ont qu'une envie sur terre, c'est d'interpeller son prochain, de transgresser la loi. C'est même l'inverse qui se passe. Et on est, en ce qui concerne les polices municipaux, véritablement dans un mécanisme de contrôle réflexif. La police municipale, depuis des années, cherche à avoir une vraie légitimité. Elle demande par l'intermédiaire des maires de valoriser son travail. Et les maires disent, mais donnez-nous les moyens, renforcez nos moyens, permettez-nous, plutôt que d'avoir un 38 spécial qui ne comprend que 6 cartouches dans son barillet, d'avoir un Walther P99 avec 15 coups en magasin, plus 3 chargeurs, 45 coups. Pourquoi ? Pour jouer avec ? Pas du tout. Pas du tout. C'est que quand vous êtes sur l'affaire du Bataclan, et quand les premiers policiers qui interviennent de la BAC, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont ouvrir le feu. Pour tuer les assaillants ? Non, pour leur dire on est là. Et tout d'un coup, les assaillants arrêtent d'ouvrir le feu sur les victimes et retournent le feu sur les policiers. Mais ça, c'est totalement exceptionnel. Et ne doutez pas une seconde de l'angoisse fondamentale que constitue pour un policier le fait d'être armé. J'ai vu des affaires où les policiers ont ouvertement refusé d'ouvrir le feu alors qu'on leur tirait dessus. Pourquoi ? Parce que c'est une source d'emmerde incommensurable. Il va falloir faire des rapports. On va être placé en garde à vue. Il va falloir ensuite s'expliquer. Ça veut dire aussi un risque pour sa propre carrière. Voire à un moment donné, peut-être parce qu'on a ouvert le feu et tué quelqu'un, eh bien, bien évidemment, être mis en cause, déjà sur le plan médiatique, ensuite sur le plan personnel, après sur le plan professionnel, devoir risquer une mutation. Mais vous imaginez, 30 secondes, vous subiriez tous cette pression ? Et surtout, parce que j'ai quand même exercé pendant 3 ans et demi à Nice, qui comprend une police municipale dont vous connaissez l'importance. La nuit, il y avait 6 véhicules qui tournaient en permanence à Nice. 3 de la BAC, police nationale, 3 de la police municipale, armés, avec tout le matériel idoine, matraque, taser, etc. Parce que les policiers municipaux, comme les policiers nationaux, non officiers de police judiciaire, ont parfaitement le droit d'interpeller quelqu'un en flagrance, article 73 du Code de procédure pénale, et ensuite de l'amener à l'officier de police judiciaire, sur la base de quoi, comme cela a été précisé, ils vont rédiger un rapport et indiquer les circonstances de l'interpellation. Quand c'était les policiers municipaux, c'était un bonheur. Rapport sur 5 pages. Pourquoi ? Parce que la police municipale a encore les moyens d'avoir un contrôle réalisé par une hiérarchie intermédiaire. Pour les policiers nationaux, c'est un peu plus compliqué.
La nuit.
Mais pour les policiers nationaux, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'une des grandes problématiques de la police nationale, ça a été 1996, la disparition du corps des inspecteurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en manque en hiérarchie intermédiaire, mais en contrepartie de quoi ? Eh bien maintenant, le référent, c'est le procureur de la République. Et c'est lui qui apprécie, parce que c'est lui qui, à l'audience, va devoir défendre son dossier et vérifier, à tout le moins, que le contrôle d'identité a été régulé, parce que c'est exactement ça, et j'en termine là. Première chose que l'on demande, cadre juridique du contrôle. Expliquez-moi ce que vous avez fait. Voilà. Donc, vous pouvez dire qu'il y a un vrai contrôle juridictionnel par une autorité judiciaire.
Je voudrais réagir sur l'idée que les contrôles d'identité seraient généralement pas illégaux. Moi, je nuance, parce qu'ayant travaillé sur les QPC et les recours devant notamment la Cour de cassation, qui aboutit à constater que l'État français discrimine au faciès à l'occasion de contrôles d'identité, notamment sur réquisition du procureur de la République, quand on regarde les chiffres, tout de même, la plupart des contrôles... Alors, il y a un nombre de contrôles qui sont en fait dans la bande des 20 km, dans les gares, les ports, les aéroports, enfin, toutes ces zones-là. Et en fait, en termes de masse, c'est tout de même là où les contrôles sont effectués. Et souvent, ils le sont soit bande des 20 km, soit un cumul entre plusieurs régimes. Ça a été constaté par le Conseil constitutionnel dans une décision. Il arrive que sur une gare, vous savez peut-être que c'est limité dans le temps, les contrôles dans les gares notamment, il arrive qu'on ait un cumul entre les contrôles de la bande plus, par exemple, un contrôle sur réquisition du procureur de la République qui permet de faire un contrôle toute la journée, par exemple. Et donc, ces contrôles sont beaucoup utilisés. Et les réquisitions sont aussi fortement utilisées, ça vient d'être dit, et ça produit aussi des effets discriminatoires, parce qu'il n'y a pas que le flair du policier qui permet de détecter, de passer dans le contrôle. Donc je ne suis pas sûr que le principal contrôle soit l'infraction. Alors il y en a évidemment, mais en termes statistiques, quand on regarde le nombre de procédures qui sont ouvertes, notamment sur infraction à législation des étrangers, je pense que l'essentiel, ce n'est pas sur infraction, mais c'est sur d'autres fondements. Et ça a été prouvé statistiquement. Il y a eu quelques études scientifiques qui ont essayé de regarder ce qui déterminait le contrôle. Et a priori, les contrôles sont fortement déterminés par l'apparence de la personne.
On a un petit souci de micro. Non, j'arrive.
Pour vous contredire, si on devait strictement expliquer les règles des contrôles frontaliers, si on prend la région parisienne, entre Orly, Montparnasse, il y a moins de 20 km, ça veut dire que tout le 94, on peut contrôler tout ce qu'on veut sur le 94, sur le 93 y compris avec Orly, et donc avec extension, vu que c'est pas très grand dans la région, avec le 92. Je pense que les policiers français ne pratiquent pas ce genre de contrôle, parce que... Mais la gare Montparnasse, c'est une gare, aéroport Orly... Ah bon, de Montparnasse, vous n'allez pas à l'étranger? Et d'Orly, vous n'allez pas à l'étranger? Orly et Gare du Nord, c'est pareil. Il doit y avoir moins d'un kilomètre entre Montparnasse et Gare du Nord. Et il y a moins de 20 km entre Montparnasse et la Gare du Nord. Pourtant, dans cette bande, on ne pratique aucun contrôle sur cette zone de 10 km. C'est pour ça qu'on fait aussi des distinctions dans ces contrôles. On essaie de faire ça avec intelligence. C'était juste. Sinon, toute la région parisienne est une zone de contrôle systématique.
Non, puis. Enfin.
Ça marche pas comme ça, je suis désolé. Pas ça le mode de calcul. En fait, il y a une bande appelée la bande Schengen qui est dans les 20 km des frontières terrestres de la France. Okay, ensuite, il y a une possibilité de contrôler à partir de la zone frontière jusqu'au premier péage sur une autoroute ou jusqu'au premier arrêt sur un train, mais aussi jusqu'à la première gare, en fait, la gare ouverte au trafic international. Et donc, je ne dis pas qu'il y a une zone de 20 km autour de la gare du Nord. Je dis que la gare du Nord est un endroit où on peut faire des contrôles systématiques qui sont des contrôles frontaliers. C'est même pas exactement la même chose. Je ne dis pas que c'est 20 km autour de la gare du Nord. Il y avait une extension pendant l'état d'urgence. C'est-à-dire, pendant l'état d'urgence, il y avait des contrôles possibles dans des zones. Mais je ne parle pas des contrôles d'état d'urgence. Et je rajoute que, désormais, dans la loi qui vient d'être adoptée, la loi du 10 septembre 2018, pour des personnes qui sont dans les 10 km de la bande Schengen, il est possible de faire des refoulements, des refus d'entrée sur le territoire. Ce qui change radicalement la chose. Avant, on faisait des remises ou des réadmissions, pour être très technique. L'ensemble de ces mesures qui visent à étendre les possibilités de contrôle juste sur des contrôles d'entrée sur le territoire, on va dire, des contrôles de séjour, c'est ça qui massifie les contrôles. Vraiment, en termes de statistiques, c'est genre 80 000 à 100 000 contrôles qui sont effectués sur ce fondement-là. À la frontière franco-italienne, c'est 80 000 décisions de refus d'entrée. Donc, vous voyez, en termes de massification, on n'est plus du tout dans les... Je ne sais pas combien vous faites contrôle par an dans le cadre de dispositifs purement répressifs, mais on n'est plus du tout dans la même ordre de grandeur. Et je rajoute que outre-mer, c'est aussi massif parce qu'on a créé aussi, c'est une des dernières dispositions du 78.2, outre-mer, une possibilité dans une zone au bord de route ou de côtière, je ne sais pas comment, etc., de faire des contrôles systématiques. Et là aussi, quand vous êtes à Mayotte, quand vous êtes en Guyane, etc., ça fait que les populations sont interpellées par ces contrôles de séjour. Ah oui, c'est le but contre l'immigration irrégulière, c'est très clair.
Votre idée, c'est bien de dire... Il y a plus de contrôles administratifs que de contrôles judiciaires et des contrôles administratifs préventifs par rapport aux contrôles judiciaires. Bon. Donc du coup, moi je vais répondre heureusement. Hein. Oui. Vous vous rendez compte, si on inversait la tendance, ça voudrait dire qu'on vous fait tous des contrôles judiciaires. Là, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Et finalement, c'est peut-être là où je rejoins mon propos initial lorsque je suis intervenu. C'est là où on voit que finalement, la distinction entre police administrative et judiciaire est respectée. Parce que, Dieu merci, la police administrative, c'est le principe, et la police judiciaire, c'est l'exception. Ce serait autrement plus dangereux si la police judiciaire était le principe et la police administrative l'exception. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la police judiciaire est quand même celle qui est la plus intrusive et qui dispose des moyens les plus violents. Donc là, de ce point de vue, je crois qu'on peut dire que tant que la police judiciaire conservera cette valeur d'exception, les principes que vous défendez et en tout cas les principes que nous enseignons à nos étudiants seront respectés.
Alors, une réaction de Olivier Kahn et ensuite on reprendra la main sur un dernier thème avant de
points.
Conclure.
Enfin, trois petites remarques. La première, c'est effectivement sur cette distinction police administrative et police judiciaire, peut-être, et en tous les cas, les irrégularités de contrôle. Pour reprendre ce que disait Serge sur cet arrêt de la Chambre civile du 9 novembre 2016, qui condamne donc le ministère de l'Intérieur pour des contrôles au faciès. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on ne distingue pas dans les motifs des contrôles le contrôle administratif et le contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il y en a un qui est plus susceptible de conduire à du contrôle au faciès que l'autre. Et en revanche, la Cour constate qu'effectivement, il y a une pratique de contrôle au faciès qui est problématique et qui est donc un contrôle discriminatoire. La deuxième remarque, c'est que je pense qu'il faut distinguer le contrôle des étrangers du reste du contrôle. La mesure, effectivement, qui est mise en œuvre à Briançon ou qui est mise en œuvre à Menton, c'est des contrôles de masse totalement illégaux qui sont destinés à soulager la frontière de Calais. Ça existe depuis... Enfin, moi, j'ai travaillé sur ces questions au début des années 2000 et ça existait déjà. Et on disait déjà qu'on contrôlait systématiquement le Calais-Vintimille pour en extraire et soulager Calais. Donc on est à confronté à quelque chose de très particulier, mais qui va augmenter effectivement, ce que comme disait Serge, massifier le volume de contrôle. Le dernier point, c'est une remarque sur ce que vient de dire Éric Amous qui me gêne, mais probablement parce que j'ai passé un peu de temps en Angleterre, c'est-à-dire la normalité du contrôle, et qui rejoint ce que disait M. Audebert aussi, la possibilité donnée de contrôler quelqu'un qu'on connaît déjà, et qui est quelque chose qui est bien connu, qui procède effectivement du fait que procéduralement, les policiers considèrent le contrôle comme un moyen d'entrée. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on accède à un certain nombre d'individus, entre autres dans l'espace public, qui sont des individus problématiques parce qu'ils tiennent le mur, parce qu'ils squattent, parce qu'ils dérangent, il va falloir un moyen d'entrée. On peut pas y aller. Le contrôle d'identité est un des moyens d'entrée qui a été proposé et qui surprend beaucoup à l'étranger. C'est-à-dire si on propose à un Britannique la théorie française du contrôle d'identité et la normalité d'accéder à l'individu pour le policier par le contrôle d'identité, c'est quelque chose qu'il ne comprendra pas. Dans un pays où, effectivement, le contrôle d'identité ne peut être justifié que de manière judiciaire, sauf à l'égard des étrangers, et d'où encore, effectivement, la distinction. Voilà.
Merci. Alors justement, je voulais finir en fait sur une note qui pourrait être prospective. Vous n'êtes pas sans savoir hein, que ces dernières années, les scandales liés notamment à des pratiques généralisées et discriminatoires, outre les fameux arrêts de la Cour de cassation qu'il faut aller voir et mettre en perspective avec la décision que citait Serge du Conseil constitutionnel rendue en début 2017, donc tout ça est désormais un peu derrière nous, ont conduit à un certain nombre de propositions. Certaines sont devenues des normes, notamment le port de caméras mobiles dont on attendait beaucoup de choses, dont on attend toujours beaucoup de choses et qui pose la question des statuts des agents sur le terrain. La question du récépissé qui avait été à un moment donné promis, c'est-à-dire la remise d'un récépissé en contrepartie de la bonne exécution ou de la mauvaise exécution d'ailleurs, en tout cas pour attester de l'exécution du contrôle d'identité. Qu'est-ce que de vos points de vue de terrain et théorique aussi, et bien sûr, ces propositions ou d'autres peuvent évoquer pour finir très, très rapidement, chacun peut intervenir sur 2 minutes.
Oui, le problème de la caméra est quelque chose, j'en ai parlé avec souvent beaucoup de policiers, et je pense que la plupart des policiers, vous parlez des caméras embarquées sur la police, je pense que la plupart des policiers sont pour. Il faudrait par contre un système qui soit effectivement un système qui enregistre en continu, de façon à ce qu'à partir du moment où on déclenche la caméra, il y ait l'enregistrement donc, qui ait été fait 3 ou 4 minutes auparavant pour avoir tous les éléments. Mais c'est effectivement quelque chose qui peut être un très très bon outil pour savoir effectivement ce qui se passe, et puis parce que ça peut arriver aussi, pour éviter qu'il y ait quelquefois, ça peut arriver des provocations aussi. Parce que, comme dans toutes les professions, tous les policiers ne sont pas forcément des gens impeccables. Ça peut arriver aussi. Donc, la caméra embarquée, la plupart, pour ne pas dire quasiment l'intégralité des policiers à qui j'ai parlé, sont favorables à cette mesure qui devrait permettre de prouver beaucoup plus facilement les choses. Et pour le juge jugeant, ça permettra effectivement de voir maintenant ce qui a pu se passer et d'avoir la réalité concrète sous les yeux.
Récépissé, pas pour à la base, mais si un jour il faut qu'il y ait un récépissé de contrôle d'identité, on s'adaptera. Et puis, pourquoi ça... pas pour à la base, ça me paraît compliqué de donner un petit papier, vous voyez, la perte de temps. Alors, je sais pas. Mais après, s'il faut, moi, si on me dit dans le code qu'il faut donner un récépissé, je donnerai un récépissé. Hein, mais voilà, à la base, si vous me demandez mon avis, pas trop pour, mais la caméra pour, par contre.
Et. Vous avez parlé et attiré l'attention, c'était très intéressant, de la question de l'armement, mais est-ce que sur des propositions qui peuvent apaiser d'une certaine façon les relations au quotidien, il y a quelque chose qui vous interpelle en particulier ?
Sur la caméra dont on parlait à l'instant, effectivement, moi, à titre personnel, je verrais ça de... je pense que ce serait de bon augure. Et puis, il me semble que... Puisqu'effectivement, l'essentiel des agents sont des gens extrêmement sérieux, ça ne poserait pas a priori de problème. Et je pense même que ça serait une bonne contrepartie dans une société où le citoyen lambda, lui, est de plus en plus suivi et que les moyens techniques permettent des investigations et un contrôle sur le citoyen de plus en plus poussé. Ça me semble logique que des membres des forces de l'ordre puissent, par les moyens techniques, aboutir à ce que leur action soit plus contrôlée, soit mise en évidence.
Très bien. On avait peut-être pour terminer une dernière question dans la salle.
C'est toujours à propos des contrôles d'identité, parce qu'il y a quand même à Paris, je pense, je m'appelle Claire Vaquet, je suis avocat au Conseil. Donc je ne suis pas sur le terrain comme... mon confrère Audebert, mais à Paris, il y a quand même une problématique. Vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, qu'il n'y a pas de contrôle CESEDA. En effet, je pense qu'à Paris, notamment, ce sont les contrôles procureurs de la République, ce qu'on appelle les opérations coup de poing, qui en tiennent lieu. Et si le Conseil constitutionnel a été conduit à faire la réserve d'interprétation dont on parlait, là, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, mais c'est très difficile pour les avocats qui sont désignés d'office pour non pas des infractions, mais des rétentions, ce qui fait que ça vient d'ailleurs devant la première chambre civile de la Cour de cassation et pas devant la chambre criminelle. C'est très difficile pour eux de montrer au juge qui, objectivement, aide les OPJ et ferme un peu les yeux, qu'en réalité, le procureur de la République a fait une opération coup de poing à Barbès de minuit à midi le 3 novembre, puis de midi à minuit le 3 novembre, puis de minuit à midi le 4 novembre, puis de midi à minuit le 4 novembre. Et à chaque fois, il produit dans le dossier la réquisition pendant 12 heures, le 3 novembre, ou le 4 novembre, ou le 6 novembre. Alors, il faut, à la défense, il faut que la défense arrive, et les gens sont commis d'office sur le terrain, donc avant, il y a une seule réquisition. En réalité, il y a une succession de réquisitions qui constitue une période ininterrompue parfaitement contraire à la Constitution. Alors, ceci dit, là aussi, la première chambre civile, je rassure quand même, les juges sont très, très conscients. Et tout ça pour finir, effectivement, bizarrement, ça donne lieu à des rétentions d'étrangers. Et je précise aussi que souvent, ces opérations coup de poing sont aussi bizarrement confiées à des officiers de police judiciaire qui relèvent du service de la police des étrangers, pas particulièrement des stupes ou du terrorisme. Bon. Mais alors, là, j'ai un arrêt que j'ai, entre guillemets, subi le 5 septembre dernier, donc vous voyez, c'est quand même frais, et qui explique gentiment aux officiers de police judiciaire que là, ils avaient dans leur dossier une réquisition du procureur qui était limitée de 8 heures à 12 heures et qui était espacée entre elles, donc ça, mais de plus de 24 heures. Donc le procureur de la République, maintenant à Paris, il a un petit mode d'emploi, 24 heures, toc, 24 heures, toc, là, c'est constitutionnel.
Merci pour cet élément d'actualisation. Je crois que tout le monde a désormais forte envie d'aller en discuter autour d'un déjeuner. Je remercie encore les intervenants à cette table ronde et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à partir de...